J'ai vraiment à cœur, dans cette période troublée, et ça n'intègre, ça va pas intégrer mon message, mais quoique, il y a une relation directe, je regarde l'heure. Le Seigneur nous dit dans sa parole ce matin, dans cette période troublée, c'est vrai qu'au château Thumry, vendredi soir, nous avons partagé que beaucoup de chrétiens avaient peur. On est vraiment dans une situation inconfortable dans ce monde. Et je voudrais vous partager cette parole. Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je suis ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. De ma droite triomphante. Qui est la droite triomphante de notre Dieu? C'est Jésus. Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Voilà, je vais ce matin vous parler d'un sujet que j'ai eu à cœur il y a quelques semaines. Et par rapport à ce que nous partageons, et encore ce matin, je vois vraiment qu'il y a un seul esprit et gloire à Dieu. Je vais vous parler ce matin du pouvoir et de l'autorité. Voilà, je suis désolé, mon plus grand combat, c'est le temps. Je vous promets, je suis en apprentissage, je vous promets que je vais faire de mieux en mieux. Mais la parole de Dieu est tellement riche qu'au fur et à mesure où je veux en retirer, ben, j'ai plutôt tendance à en remettre. Alors, désolé, mais voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Le pouvoir et l'autorité, ce sont des mots qui peuvent, à notre oreille, sembler identiques, similaires. Mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ont une signification différente, mais ils restent complémentaires. Le dictionnaire nous donne deux formes au niveau du pouvoir. Il nous donne le verbe pouvoir, c'est-à-dire avoir la faculté, avoir la capacité d'entreprendre quelque chose. Capable de ou non. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, ou nous ne pouvons pas. La deuxième définition du dictionnaire, c'est le nom masculin, pouvoir, qui vient du latin pos, qui signifie « je suis maître de ». J'ai le droit de commander. Je peux obliger quelqu'un à faire quelque chose. Et c'est sur ce dernier point que nous allons nous pencher. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche le pouvoir. L'homme est un homme de pouvoir. Il cherche le pouvoir pour des raisons territoriales, pour des raisons économiques, et aussi, regardez bien aujourd'hui, pour des raisons religieuses. La recherche du pouvoir est le moteur du monde, et à tous les échelons. La politique est la clé du pouvoir. Et regardons bien nos hommes politiques aujourd'hui. Ça en dit long sur ce que l'homme peut rechercher le pouvoir. Et tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Et sur l'autel ultime du pouvoir, des têtes ont été coupées durant des siècles, dans le sens propre et dans le sens figuré. Alors il y a différents cadres pour exercer le pouvoir. On a des régimes totalitaires, on a des régimes théocratiques, on a des régimes monarchiques, on a aussi l'Empire, nous avons vécu sous l'Empire napoléonien. Nous avons aussi la démocratie. La démocratie étymologiquement qui veut dire le pouvoir par le peuple. C'est ce qui régit la France aujourd'hui. Le pouvoir par le peuple. Mais chaque pouvoir a ses limites. Chaque pouvoir a ses limites parce que le pouvoir est toujours détenu par l'homme. Et dans chaque homme, il y a le charnel qui veut aller plus loin. Cette soif de pouvoir est inscrite dans l'homme. Mais quand on dit l'homme, c'est avec un grand H, parce qu'on entend l'homme et la femme. Et aujourd'hui, l'homme et la femme sont en quête de pouvoir. Il n'y a plus le sexe fort, il n'y a plus le sexe faible. C'est terminé tout ça. L'homme et la femme sont en recherche de pouvoir. Et alors, qu'est-ce qui les motive ? Vous savez, dans un couple, j'ouvre une parenthèse, bien sûr, il y a cette lutte de pouvoir. Bien sûr, l'un veut prendre autorité, l'autre... Mais vous savez, une fois qu'il n'y a plus ces chicaneries, c'est qu'il y en a un qui a mangé l'autre. C'est normal d'avoir ces frictions. Alors, qu'est-ce qui motive l'homme ? Qu'est-ce qui motive l'homme ? C'est l'instinct de grandeur. C'est la supériorité, c'est commander, c'est vouloir contrôler. Contrôler, qu'est-ce qu'on aime bien contrôler, hein ? C'est le pouvoir de l'argent, avoir du fric. Oh, quand j'ai de l'argent, j'ai pouvoir. Ouais, c'est l'orgueil, la gloire, avoir la gloire. La reconnaissance. Exister, être chef. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui le nombre de chefs que nous avons autour de nous. Il y a bientôt plus de chefs que de gens normaux. Vous vous rendez compte le nombre de chefs ? Il y a les petits chefs, il y a les grands chefs. Et tous les chefs ne sont pas dans les gares. Les petits chefs. Ah, tu entends bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a les chefs qui sont responsables. Et il y a aussi les chefs qui sont irresponsables. Il y a des chefs responsables, mais qui ne sont pas coupables. Waouh. L'homme veut tous les pouvoirs. Être libre, sans contrainte. L'homme veut devenir comme Dieu. L'homme veut devenir un Dieu. Que nous dit la parole ? Dans Luc 9, au verset 48. Car celui qui veut être le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. Ne vous faites pas appeler maître, vous n'avez qu'un seul maître, c'est Yeshua, Jésus. Amen. Les valeurs du monde ne sont pas celles de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chef. Seul Jésus est le grand chef suprême. Amen. Ah, si j'étais président. Vous vous souvenez, Gérard Lenormand ? Ah, si j'étais président de la République. Vous voyez, c'était une chanson qui était destinée aux enfants. Mais quelque part, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans cette chanson. Bien sûr que lui, il aurait mis Mickey Premier ministre. Il aurait mis Simplet à la culture, Tintin à la police, Picsou aux finances. La parole vient d'un pasteur. La parole vient d'un pasteur. Il aurait mis Zorro à la justice et Tarzan à l'écologie. On rigole. Le rabbin de Lille disait encore dernièrement, dans la plaisanterie, il y a 40% de vérité. C'est encore les propos du rabbin. Mais que ferions-nous ? Que ferions-nous si nous étions présidents ? Que ferions-nous si nous avions à la fois le pouvoir et l'autorité ? Je sais que nous, en tant que chrétiens, nous avons un bon cœur. Nous avons un bon cœur. Je sais que nous allons faire des choses extraordinaires pour le monde. Nous agirions selon notre cœur. Nous pourrions faire des œuvres sociales. Ouais. Plus de grèves. Plus de guerres. Nous aurions la capacité d'apporter la paix, le shalom de Dieu dans le monde. Ouais. De pouvoir changer le cœur de l'homme et de la femme. Je suis désolé, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous donne le pouvoir, Colette. Tu vas le voir dans le reste de la prédication. C'est une question de foi. Quand on met notre foi en action, Dieu nous donne l'autorité pour changer le cœur des gens. Amen. Sinon, l'intercession n'existerait pas. Alors, c'est un travail colossal. Et c'est vrai que sans Dieu, nous ne pourrions pas le faire. Mais nous pouvons semer dans le cœur des gens la parole de Dieu. Ça, nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. Amen. Mais quel travail colossal. Vous voyez, changer le monde, beaucoup se donnent du mal. Et vous savez très bien que le soir, au café du commerce, au bistrot du coin, il y en a qui le refont le monde. Mais ce n'est pas ces gens-là qui ont la victoire. Je vous assure, nous ne serons jamais présidents. Mais nous sommes enfants de Dieu. C'est encore mieux. Il est prouvé qu'il peut y avoir des pouvoirs sans autorité et des autorités sans pouvoir. Bon, pour ceux qui ont le cerf-volant ce matin, je répète. Il est prouvé qu'il peut y avoir des pouvoirs sans autorité et des autorités sans pouvoir. Le pouvoir légitime est toujours accompagné par une autorité donnée ou reconnue. Et l'abus de pouvoir, c'est le pouvoir sans l'autorité, qui est donc une contrainte. Quand un général prend le pouvoir d'un périmètre, quand il amène les chars, il prend autorité. La compétence reconnue révèle l'autorité légitime, voire une autorité naturelle. L'autorité, exousia, Robert, c'est pour toi, je sais que tu aimes bien le grec, désigne une légitimité, une capacité d'action, de contrôle, d'utilisation de quelqu'un, de quelque chose, par pouvoir ou par puissance. Vous voyez, les codes ont changé aujourd'hui. Nous sommes dans un monde en crise de pouvoir, mais surtout en crise d'autorité. À votre avis, frappez du poing sur la table, est-ce de l'autorité ? Il n'y a personne qui peut répondre. So-so. 50-50. Est-ce de l'autorité? Frapper des poings sur la table. Est-ce de l'autorité? Est-ce qu'on prend autorité quand on frappe du poing sur la table? C'est de l'autoritarisme. C'est de l'autoritarisme. Ça fait partie d'un trait de caractère de l'homme. Mais c'est une autorité abusive. Abusive. L'autorité est naturelle. Il y a des dates qui ont changé la France, 1789, mais il y a surtout 1968, l'autoritarisme. Et après ça, nous avons glissé doucement avec, il est interdit d'interdire, vers un manque d'autorité. Je me souviens, il y avait des codes qui étaient donnés. Il y avait des codes qui étaient donnés. Attends quand ton père il va rentrer ce soir. Vous avez déjà entendu ça en étant petit. Attends quand ton père il va rentrer ce soir. Je vais lui dire ce que tu as fait. Attends quand ton père va rentrer ce soir. Moi j'ai eu des problèmes avec Michel, il fut un moment, parce qu'elle disait à mes petits-enfants, attends quand papy va rentrer ce soir. Moi je rentre à la maison, mes petits-enfants, ils disaient comme ça. Et je dis, Michel, calme-toi. Il ne faut plus dire ça aux petits-enfants, ils ne vont pas peur de moi. Arrête. Et bien sûr, mais c'était ça. Et Michel a compris, elle a arrêté. Elle voulait le pouvoir derrière, mais elle voulait me donner l'autorité. Vous voyez, les femmes sont subtiles, hein? Les femmes sont subtiles. Voilà, on appelle ça une autorité institutionnelle. Il y avait des gens qui représentaient l'autorité. Rappelez-vous, il y avait l'instituteur. Il pouvait tout en temps nous tirer par l'oreille. Voilà. Il y avait le maire du village, le maire. Il y avait le curé aussi qui représentait une autorité. L'autorité, la soumission à l'autorité conduit à la sagesse. Et ce que l'on ne veut pas apprendre par la sagesse, on l'apprend dans la douleur. Parce que l'obéissance à l'autorité conduit à la discipline, à l'enseignement et à l'éducation dans l'amour. Cette soumission à l'autorité fait partie du service du croyant. Jésus est venu pour servir et non le contraire. Dans Proverbes 4, versets 1 à 2, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon enseignement. Dieu a tout pouvoir. Dieu a toute autorité sur nos vies. Pourquoi ? Parce qu'il est Je suis. Il est Adonai. Il est Seigneur, mon maître. Il est El Shaddai, en hébreu, signifie le Tout-Puissant. Il est Hachem, il est le nom. Il est le nom supérieur à tous les noms. Il est Abba, il est notre Père. Amen. Il est le potier et nous sommes l'argile. Waouh ! Dieu est notre Créateur. Il nous façonne à sa convenance pour sa gloire. Dieu est le chef des armées célestes. Il est le Tout-Puissant. Alors comment Dieu a fait, comment Dieu a exercé son pouvoir, et notamment dans l'Ancien Testament, il a exercé par des prophètes, il a exercé par des prêtres, et par la suite, il a aussi exercé par des rois. Et quel est le but ? Le but, c'est recevoir, que le peuple puisse recevoir l'autorité de Dieu, afin d'enseigner et enfin d'appliquer les lois. Et ensuite, les hommes ont demandé des rois. Alors pourquoi un roi ? Et quel a été le premier roi d'Israël ? C'est une question que je vous pose. Saül. Bien. J'avais dit que je donnerais des récompenses de temps en temps.
Tiens, choisis. Un chocolat. Tiens, fais passer. Tu gardes le paquet.
Saül. Alléluia, Saül. Non pas Saul, hein, parce que Saul, c'est Paul. On est bien d'accord. Alors, vous pourrez trouver ce que je vais vous dire là maintenant. Vous pourrez trouver dans Exode 35 et ensuite dans Samuel 8. Vous pourrez retrouver tous les textes. Quand Israël sort du pays d'Égypte. Ça n'a pas été facile, ni pour Dieu, ni pour les hommes. Et alors, comment Dieu appelait son peuple au moment où le peuple est sorti du pays d'Égypte ? Comment Dieu appelait son peuple ? Il y a des chocolats, hein ? Comment Dieu appelait son peuple ? Non. Excuse-moi, mais il avait vraiment une image sur son peuple. Il les appelait le peuple au cou raide. Pourquoi au cou raide ? Parce qu'il ne voulait pas se plier à l'autorité de Dieu. Il ne voulait pas se plier à le peuple était insoumis à l'autorité. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un cœur partagé. Le peuple de Dieu israélite, qui est devenu le peuple hébreu en sortant d'Égypte, était idolâtre. Mais quand ils revenaient à Dieu de tout leur cœur, eh ben Dieu délivrait le peuple des ennemis d'Israël. Encore une question. Qui étaient les pires ennemis, les ennemis intimes du peuple d'Israël ? Je vous parle de ça, c'est 10 siècles avant Jésus-Christ. Je comprends que vous vous en souveniez plus. C'était qui ? Quel est le peuple ? Les Philistins. Où habitaient les Philistins à l'époque ? Gaza. Je vous laisse réfléchir sur la situation actuelle dans le monde et en Proche-Orient. Le chocolat pour Jacques. Un chocolat pour Jacques. Soyez pas frustrés. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde après. Hein ? Voilà, je veux pas rejeter qui que ce soit. OK. Et il existait un homme à l'époque qui s'appelait Samuel, et Samuel était l'homme qui donnait l'autorité de Dieu. Et le peuple a réclamé un roi à Samuel. Et qu'est-ce qu'a dit Dieu à Samuel? Il a dit, 1 Samuel 8, verset 27, « En effet, ce n'est pas toi qu'il rejette, Samuel, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Comme il fait avec nous aujourd'hui. Il nous livre, il nous laisse le libre choix. Dieu donne son accord à Samuel, qui va oindre le premier roi d'Israël, Saül. Mais il va quand même informer son peuple. Il va dire, attention, c'est un homme qui va régner sur vous. Avec tous les défauts qu'il va pouvoir avoir, avec tous les abus qu'il va pouvoir avoir sur vous, ça reste un homme. Et Saül, reçoit le Saint-Esprit. Et il reçoit le pouvoir et l'autorité. Il va remporter des grandes victoires. Mais Saul n'est qu'un homme, il désobéit à Dieu. Saül. Merci. On voit enfin un qui est attentif. Merci pour les autres. J'aime bien quand ces prédications soient comme ça, interactives. J'aime bien, moi. J'aime bien. C'est vivant. C'est super. C'est super. Dieu va rejeter Saül. Et Dieu va trouver un homme selon son cœur. Qui sera cet homme? Ouais, un chocolat. Ah oui, le chocolat suisse, ouais, mais ça, c'est pas du chocolat suisse, je suis désolé. Et Dieu va oindre David, qui va recevoir à son tour le Saint-Esprit. Saül avait toujours le pouvoir, mais il avait de moins en moins l'autorité. Mais David n'avait pas encore le pouvoir, mais il avait de plus en plus d'autorité. Saül sera trop lâche pour affronter Goliath. Et c'est David qui va aller affronter Goliath, lui le petit berger. Mais à votre avis, David, il aura le pouvoir ou il aura l'autorité? Un choc, t'en as déjà eu un, ça suffit. Et c'est comment il va gagner, David? Il va gagner avec autorité, mais ce sera par sa foi. Il va vaincre par la foi ce Goliath. C'est par la foi que David recevra l'autorité et la capacité de raccourcir ce géant. Parce qu'il dira dans la parole, « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » David sera le nouveau héros. Saül a vaincu des milliers et David des dizaines de milliers. Là va naître la légitimité de l'autorité de David, qui n'a pas encore le pouvoir. Et petit à petit, Saül va perdre et son autorité et son pouvoir. Mais il veut le garder, ce pouvoir. Il veut le garder, comme beaucoup d'hommes. Et il est prêt à tout pour le conserver. Et David va devoir se sauver pour préserver sa vie. Alors pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine dans le cœur de Saül? Pourquoi tant de haine? Parce que c'est cette soif de pouvoir qui a mis cette haine, cette jalousie, cette colère qui lui a permis de faire tous ces abus, cette tyrannie, ces meurtres. Il a même voulu contrôler David en lui donnant son armure. Et en faisant porter son armure à David. Vous imaginez le contrôle qu'il voulait avoir, même sur la victoire supposée de David. Il voulait garder le bénéfice de cette victoire. Amen. Et le pouvoir conduit à la mort. Alors pourquoi nous en sommes arrivés là? Le péché est entré dans Saül. Et Satan a pris des droits dans la vie de Saül. Rappelez-vous, à l'origine, à la création du monde, Béréchit en hébreu, au commencement, le sixième jour, Dieu créa l'homme, Dieu créa la femme, et il donna l'autorité humaine, qui est un don de Dieu à l'homme. Il lui dit, rendez-vous maître et dominez la création, les animaux. L'homme, à l'image de Dieu, avait la vocation d'exercer l'autorité. Mais sa souveraineté sur la nature, sur les animaux, ne devait certainement pas aboutir à la détérioration et à l'asservissement de l'homme. Dieu a soumis la nature à l'homme, mais il n'a pas soumis l'homme à l'homme. Bien sûr, ensuite, il y a eu la chute dans le jardin d'Éden. Il y a eu la provocation. Satan a voulu le pouvoir. Mais ce n'est pas possible. Dieu détient le pouvoir. Alors, il a voulu prendre l'autorité. Et c'est par le péché qui est entré dans l'homme, par le fruit défendu, que Satan a pris autorité sur l'homme. Et le péché lui a ouvert les yeux. Parce qu'il a goûté au fruit. Il a goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Ish et Isha, l'homme et la femme, seront chassés du jardin. La violence par le péché est entrée dans le monde. Et tout commença. Et Caïn tua Abel. Mais Jésus est venu libérer tout ça. Jésus est venu nous libérer. Et Jésus à lui toute autorité et tout pouvoir. Jean 1, verset 1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, le Logos. Pas le Bogos, hein, le Logos. Hein. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu au commencement. Il était avec lui, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et vous croyez que Jésus n'a pas eu de combat sur cette terre? Mais Jésus a eu des combats comme nous en avons encore. Il y a eu des combats dans le désert. Satan a voulu prendre autorité et lui donner des pouvoirs que lui-même n'avait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Arrière de moi, Satan. Tu adoreras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, de prendre cette autorité. Pourquoi Jésus? Pourquoi Satan voulait tenter Jésus? Simplement pour ouvrir une brèche dans le plan de Dieu. Et c'est ce que Satan veut faire avec nous, ouvrir une brèche dans le plan de Dieu pour nous, ses enfants. Et c'est pour ça que nous devons prendre autorité en son nom. Jésus lui a dit, retire de toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Voyez, Satan est un usurpateur. Il est hostile. Il détient aucun pouvoir, si ce n'est que l'autorité qu'on lui donne par notre péché. Jésus a reçu tout pouvoir. Jésus a reçu toute autorité. Et Christ est placé bien au-dessus de toute autorité et de toute puissance, de toute dénomination et de toute ses souverainetés. Il est au-dessus de tout nom, notre Dieu. Amen. Et Jésus a accompli des miracles. Il avait le pouvoir et l'autorité. Je vous rappelle que dans la parole, il a guéri des malades. La parole fait 23 fois référence à des guérisons. Il a maîtrisé les forces de la nature, le vent, la tempête. À 9 reprises, c'est commenté dans la Bible. Il a ramené des morts à la vie. Il y en a 3, dont Lazare. Il a pardonné nos fautes. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il les a effacés, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé Il a désarmé toute autorité et tout pouvoir. Sachez bien que dans nos faiblesses, dans nos péchés, nous avons un Seigneur qui nous relève, qui nous pardonne. Et tout est cloué à la croix. Tout est effacé. Amen. Parce que Satan est vaincu. Jésus dit lui-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Même Pilate a dit, j'ai le pouvoir de te tuer, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus ? Mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est que le pouvoir qui te viendrait d'en haut, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dieu, Jésus, a tout pouvoir, toute puissance, tout pouvoir, toute souveraineté. Mais pourquoi il a tout ce pouvoir aujourd'hui ? Mais Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi et des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et Jésus est assis sur son trône de gloire à la droite de Dieu, qui est une place d'honneur et d'autorité. Amen. Amen. Alors quels sont nos rapports aujourd'hui avec cette autorité ? Quels sont nos rapports aujourd'hui ? Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Je suis désolé, il faut regarder les choses en face de temps en temps, tant que chrétien, et faire le bilan sur soi-même. Nous en sommes où ? Quel est mon rapport avec l'autorité aujourd'hui ? Qui a autorité sur ma vie ? Jésus est-il mon Seigneur et mon Sauveur ? Alléluia ! À qui suis-je soumis ? À qui suis-je insoumis ? Pourquoi suis-je encore rebelle dans certaines circonstances dans ma vie ? Quels sont encore les compromis qui donnent un point d'appui à Satan dans ma vie ? La parole nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. L'amour de Jésus a-t-il triomphé en moi ? Oui. Alléluia. Suis-je porteur d'autorité ? Peut-être. Quel est le fruit de cette autorité ? Quel est le fruit que je porte ? Cette autorité vient-elle de Dieu ou vient-elle de l'homme ? Suis-je crédible aux yeux de Dieu ? Suis-je crédible aux yeux des hommes ? Si oui, alléluia. Et quelle est la crédibilité des porteurs d'autorité qui nous entourent ? Quelle est la crédibilité que nous donnons aux porteurs d'autorité ? Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités supérieures. Effectivement, nous devons nous soumettre aux autorités civiles, politiques de notre pays. Parce que ça encourage les citoyens à respecter les lois et à vivre en paix entre nous. Mais dans la mesure où cette autorité est compatible avec la parole et l'autorité de Dieu, on n'est pas obligé d'obéir à tout. Est-il plus juste d'obéir aux hommes ou est-il plus juste d'obéir à Dieu ? Le royaume de Dieu ne respecte pas les valeurs hiérarchiques et sociales injustes créées par l'homme. Non, il ne le respecte pas. Dans l'Église de Christ, l'autorité de l'homme n'est ni suprême ni absolue. Jamais. Cette autorité a pour vocation d'ouvrir de nouvelles possibilités, d'élargir les horizons de la vision, de susciter la créativité pour l'édification des croyants. Toute autorité dans l'Église, avec un grand E, au-delà de nos quatre murs, doit être amenée à Jésus. Toute autorité abusive conduit au sectarisme. Qui est le maître ? C'est Jésus. Qui est le maître ? C'est Jésus. Jésus est le seul Seigneur et Sauveur de l'Église. Jésus est le seul Seigneur dans nos cœurs. Amen. Nous devons grandir ensemble. Tous, nous devons tous grandir ensemble, guidés par les ministères que le Seigneur donne à son corps, à son Église. Ne soyons pas des brebis égarées. Rentrons dans l'enclos. Rentrons dans le Seigneur. Toi, suis-moi. Est-ce que vous avez déjà entendu l'appel ? Toi, suis-moi. Vous voulez entendre cet appel ? Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. Dieu va vous appeler. Il laisse personne sur le côté. Personne. Nous avons entendu une magnifique prédication de Jean-Luc. Il nous parlait de prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est suivre Christ. C'est choisir de se mettre sous son autorité. Lui qui a tout pouvoir, en refusant tout contre-pouvoir de l'ennemi, en refusant toute allégeance, en refusant tout compromis, Dieu nous donne la force de pouvoir le faire. Nous mettre sous son autorité, c'est décider d'être au bénéfice de la puissance de sa résurrection. Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocre tranquillité dans sa foi. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Nous devons être tout en lui. Et l'expression de l'autorité de Jésus, c'est son amour. Dieu n'est pas un dictateur. Sa puissance réside dans son amour et dans sa bonté. J'en termine. Dieu veut mettre et veut donner le meilleur pour ses enfants. Est-ce que nous y croyons ? Le meilleur, il veut nous donner le meilleur. Alors que nous donne notre Père ? Va-t-il nous donner le pouvoir ? Ou va-t-il nous donner l'autorité ? La parole nous dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse faire du mal. » Ça, c'est dans Luc 10, verset 19, et en Matthieu 10, 1, la parole nous dit aussi « Jésus leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir tous les malades et toute infirmité. » Alors, je le répète, Jésus nous donne-t-il le pouvoir ou nous donne-t-il l'autorité ? L'autorité ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus nous donne l'autorité, il nous donne la capacité, il nous donne le pouvoir faire, la capacité. Il nous donne la victoire par l'autorité qu'il nous donne. Et nous devons agir sous son autorité et par son autorité. Dans son nom puissant, nous brisons toutes les actions et les forces de Satan. Nous entrons dans le surnaturel de Dieu. Et bien sûr, ce ne sont pas des pouvoirs magiques. Non. Et Dieu, comme disait Einstein, ne joue pas au dé. Il ne nous donne pas de pouvoir magique. Il nous donne des dons du Saint-Esprit. Et c'est le don de la foi qui va nous permettre de prendre autorité. C'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La parole de Dieu est source de notre foi. Quand l'onction du Saint-Esprit touche la parole de Dieu que nous proclamons, la parole de Dieu devient puissante. Elle devient elle-même puissance. Et il se passe des choses dans le monde spirituel. Notre adversaire recule, notre adversaire tremble. Et les forces, les autorités des ténèbres sont vaincues dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tant que nous restons, frères et sœurs, sous la couverture du sang de Jésus, Satan ne peut pas nous atteindre. Vous entendez bien ? Restez sous la couverture du sang de Jésus. Satan ne peut pas nous atteindre. Il ne peut rien nous faire. Parce que tout est accompli à la croix. Satan peut bien nous tenter. Mais si nous prenons autorité, il est complètement désarmé. Et nous devons proclamer sur nos vies que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles adoptives. Nous sommes co-héritiers du royaume des cieux. Alors, maintenant, arrière de moi, Satan, nous sommes appelés à prendre autorité dans le nom de Jésus. Alors nous allons maintenant nous lever. Je ne vous dis pas de vous lever. Hein, nous allons... Non. Je vois Huguette qui va... C'est une façon de parler. Nous allons maintenant nous lever et marcher dans la puissance de Saint-Esprit. Nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus, mettre notre foi en action dans toutes les circonstances de nos vies, parce que Dieu est vivant en nous. Alors même si l'homme a parlé, que ce soit dans différents domaines, sachez bien que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Nous pouvons le faire. Nous allons le faire. Parce que Dieu, en nous, nous en donne la force. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui a toute autorité sur nos vies. Et nous voulons proclamer ce soir, ce matin, ce midi. C'est super. Nous voulons proclamer ce midi, à midi, sa seigneurie sur nos vies. Maintenant, je vous propose de proclamer cette seigneurie. Jésus dans nos vies, sur terre et dans les lieux célestes. Vous savez qu'en haut, on nous entend. Alors je vais terminer là-dessus et je vais vous demander quelque chose. C'est de proclamer avec moi la seigneurie de Jésus sur nos vies. Je vais vous demander, Dieu va vous demander des amen si vous êtes d'accord avec ça. Je vais vous donner la prière de la souveraineté du Christ. Et vous pourrez dire « Amen » en même temps que moi. Mais que ce soit une prise d'autorité, oui, je dis « Amen » parce que je suis d'accord avec ça. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Ton sang m'a libéré du péché. Je suis aujourd'hui libre. Amen. Nous proclamons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je proclame ta seigneurie dans tout mon être, Seigneur. Je proclame ta seigneurie dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Amen. Seigneur, je proclame que tu es le Seigneur de mon corps et de mon comportement. Seigneur de mon âme et de tous mes pensées. Amen. Je proclame que tu es le Seigneur de mes émotions et de toutes mes réactions. Amen. Je proclame que tu es le Seigneur de ma volonté et de toutes mes décisions. Amen. Je proclame que tu es le Seigneur de mon esprit et de toutes mes relations. Amen. Je proclame que tu es le Seigneur de ma sexualité et de son expression. Amen. Je proclame que tu es le Seigneur de mon couple. Je proclame que tu es le Seigneur de mon célibat, si c'est le cas. Tu es le Seigneur de ma famille, tu es le Seigneur de ma maison, tu es le Seigneur dans mon travail. Seigneur, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans tout ce que je possède. À toi la gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu.